l'épreuve des faits. Céline Pitlet.
Et comme chaque samedi, vous le savez, vous pouvez nous poser vos questions sur ces quatre dossiers en scannant le QR code qui s'affiche ici sur votre écran. Avant d'ailleurs de développer ces dossiers, on va prendre la direction de Marseille parce qu'un jeune homme de 22 ans est décédé la nuit dernière dans un accident de scooter. Clémence Fournival, vous êtes sur place pour BFM TV. En fait, cet homme, il voulait fuir un contrôle de police.
C'est tout à fait ça. Il a voulu fuir un contrôle routier de la police. C'est sur cette avenue, aux alentours de minuit, 1h du matin, qu'il a perdu le contrôle de son scooter en voulant fuir. Il a tapé un ralentisseur avant de tomber lourdement et de perdre connaissance. Les policiers, pourtant, lui avaient demandé de s'arrêter, mais il a pris la fuite avec son scooter de 650 cm3. Les policiers ont essayé de lui prodiguer les premiers soins avant l'arrivée des secours. Selon les premiers éléments, les policiers disposaient d'une caméra embarquée qui était allumé. Et selon les premières images, les policiers étaient à une centaine de mètres lorsque l'individu a perdu le contrôle. Il était en défaut de permis conduire et en défaut d'assurance.
Merci beaucoup Clémence Fournival avec ton guide tricoire. Notre premier dossier, donc l'immigration tire-t-elle les salaires vers le bas? C'est un argument qu'on entend souvent dans la bouche des élus du Rassemblement National. L'immigration ferait donc baisser les salaires. Écoutez Edwige Diaz, elle est députée RN de la Gironde, vice-présidente du parti. C'était dans l'enceinte de l'Assemblée nationale lundi, le jour du rejet du projet de loi sur l'immigration.
Monsieur le ministre, votre texte est invotable pour les députés du RN, car il va à l'encontre des attentes des Français, qui sont 65% à vouloir supprimer le droit du sol, 75% à vouloir supprimer l'AME, 71% à juger que l'immigration tire à la baisse les salaires.
71% des Français pensent que l'immigration tire à la baisse les salaires, nous dit Edwige Diaz. On a retrouvé le sondage auquel elle fait référence. C'est un sondage IFOP du mois de juin 2023. Le chiffre est juste, 71%. Je voudrais qu'on continue à regarder ce sondage, s'il vous plaît. Le chiffre est juste. Par contre, le sondage ne dit pas exactement ça. Il dit que 71% des Français sont totalement d'accord avec l'idée selon laquelle l'immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas. Donc, ce n'est pas tout à fait la même idée, Fanny.
Non, en effet, on le voit, la députée simplifie le message, voire le détourne en disant que cette immigration, elle tire les salaires vers le bas. En réalité, voilà, ce sondage, vous disiez, il parle d'une seule forme d'immigration, l'immigration économique précisément, et elle parle également du rôle des patrons. Et donc, ce sondage dit que 71% des Français pensent donc que l'immigration économique, précisément, et non pas générale, permet donc aux patrons de tirer les salaires vers le bas.
Alors, est-ce que l'idée défendue par le RN, malgré tout, est vraie? Est-ce que l'immigration tire les salaires vers le bas? Cette question a fait l'objet de recherches depuis des dizaines d'années, en fait, en s'appuyant par exemple sur des moments historiques comme l'arrivée à Miami en 1980 de plus de 100 000 exilés cubains expulsés par le régime de Fidel Castro, ou encore le rapatriement de plus de 600 000 personnes de l'Algérie vers le sud de la France en 1962 après l'indépendance de l'Algérie, ou encore des épisodes de crise migratoire comme en Turquie en 2012, au début de la guerre en Syrie, avec l'afflux de réfugiés syriens. Alors Fanny, que nous disent ces travaux de recherche sur la question?
Mais ce qu'elles montrent, ces études, c'est que l'impact de l'immigration sur le salaire moyen des personnes nées en France, finalement, il est très limité, voire nul. C'est ce que nous explique, on va l'écouter, Jérôme Valette, c'est un économiste.
En moyenne, l'impact des vagues migratoires ou des flux migratoires, c'est un effet qui est nul. Il y a une partie de la littérature qui montre un effet faiblement positif, une autre qui montre un effet faiblement négatif, mais en moyenne, on voit que cet effet moyen de long terme, il est nul. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet pour certaines catégories de la population, et donc on a notamment un effet, comme toute politique migratoire ou économique, on a des gagnants et des perdants.
Alors la question, c'est de savoir pourquoi cette immigration a globalement peu d'impact sur les salaires. On en a posé la question à Flore Gubert, elle est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration.
La première raison, c'est parce que une partie de la main-d'œuvre immigrée, généralement la moins qualifiée, vient combler des besoins en travail qui ne sont pas satisfaits par la main-d'œuvre locale, soit parce qu'elle concerne des activités qui sont particulièrement difficiles et pénibles et qui sont de ce fait délaissées par les travailleurs locaux, soit parce qu'ils concernent des secteurs qui sont en déclin et qui sont donc assez peu attractifs.
Alors, on a entendu Jérôme Valette qui dit sur l'impact de l'immigration sur les salaires, il y a des gagnants et des perdants. Qui sont les perdants?
Et ben justement, on va l'écouter, il nous a donné la réponse à cette question.
Les perdants, c'est les personnes qui sont les plus complémentaires, substituables, qui sont le plus en compétition avec les immigrés, c'est-à-dire les vagues précédentes, les immigrés eux-mêmes, et puis tous les natifs qui partagent les mêmes qualifications ou les mêmes occupations que les immigrés eux-mêmes. Les personnes qui se retrouvent en général en concurrence directe avec les immigrés sont les personnes les moins qualifiées. On estime environ, pour un niveau d'éducation donné et un niveau d'expérience donné, une augmentation de 10% de l'immigration, ça entraîne une diminution des salaires de l'ordre de 3 à 4%. Et effectivement, c'est donc les personnes qui sont directement en concurrence avec les immigrés voient la concurrence augmenter sur le marché de l'emploi et donc voient les salaires tirer à la baisse. Cet effet-là, qui est un effet de court terme, il est compensé à plus long terme par une augmentation de la demande. C'est-à-dire que les immigrés qui arrivent, ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont aussi des consommateurs. Et donc, on peut avoir une stimulation globale de l'économie qui fait que même pour les personnes qui, à court terme, sont impactées par l'immigration parce qu'ils sont directement en concurrence avec les immigrés, peuvent aussi gagner à long terme, ou en tout cas, ces effets négatifs peuvent être largement atténués.
Donc pour résumer, Céline, ce que dit Jérôme Valette, c'est que à court terme, cet effet, il est négatif uniquement sur les salaires de certains travailleurs et qu'il s'estompe, on l'a compris, dans le temps. Mm-hmm. Et qu'à court terme également, les gagnants, ce sont finalement les travailleurs qui ont des compétences complémentaires à celles des immigrés.
Alors, il y a aussi une autre précision qui a son importance, c'est que ces études, les chercheurs le disent, elles ont leurs limites.
Oui, en effet, il est difficile, selon les chercheurs, de mesurer avec précision les conséquences de l'immigration sur les revenus. Regardez cette publication qui a été partagée sur le site de Sciences Po en novembre 2020. Une chercheuse du CNRS ainsi qu'un professeur d'économie résument « Toutes les études ne conduisent pas au même résultat. En réalité, les économistes ont du mal à déterminer l'impact de la migration sur les salaires ou sur le chômage. » En fait, il y a tellement de facteurs qui jouent sur les revenus qu'il est difficile d'en isoler un seul qui pourrait avoir un impact donc sur l'emploi des Français par rapport à l'immigration.
Amandine Atalaya, on a une prudence, une nuance chez les chercheurs qui tranche avec la certitude des élus du Rassemblement national sur cette question.
Oui, puisqu'ils ne s'embarrassent d'aucune précaution. Eux disent qu'il y a un lien qui est évident, ce qui n'est pas démontré en effet par les études. Et de façon plus générale, ce projet de loi immigration, il a fait l'objet de beaucoup de caricatures. Les députés du Rassemblement national parlent aussi, par exemple, d'un afflux massif de clandestins s'il y avait des régularisations dans les métiers en tension. La réalité, c'est 7 000 par an. Donc, tout est plus compliqué que ce que ne peuvent le dire les hommes politiques. Et si on regarde les sondages aussi, ils prouvent d'ailleurs que les Français, s'ils ont un avis globalement positif sur ce texte, le connaissent assez peu. Ils l'avouent eux-mêmes dans les détails parce qu'il a été assez peu discuté malheureusement au profit de davantage de postures politiciennes assez complexes.
Alors, il faut aussi préciser que l'impact de l'immigration sur les salaires dépend aussi de l'ampleur de la vague d'immigration et de sa soudaineté. C'est ce qu'ont remarqué les chercheurs qui ont travaillé, par exemple, sur l'afflux massif de réfugiés syriens en Turquie au début de la guerre en Syrie en 2012. Dans les premières années qui suivent le choc migratoire, il y a bien un impact sur les salaires des natifs.
La caractéristique de ces vagues migratoires soudaines est très importante, c'est qu'elle crée une tension directe et très forte, potentiellement, si les personnes-là peuvent travailler, puisqu'il y a aussi cette question-là, est-ce qu'elles sont en droit de travailler, mais en tout cas peut créer une pression à la baisse sur les salaires plus forte qu'une immigration qui serait plus constante et plus diffuse dans le temps. On va revenir à cette idée qu'à un moment donné, s'il y a une part fixe de travail disponible dans l'économie, effectivement, si vous avez d'un coup beaucoup de gens qui demandent cette même part, ça peut créer une pression à la baisse sur les salaires ou des tensions sur l'emploi, effectivement. Donc la dimension de la vague joue, mais c'est surtout sa soudaineté qui joue. C'est surtout est-ce que elle est diffuse dans le temps ou est-ce qu'elle est très soudaine. Et à ce moment-là, effectivement, les marchés et notamment le marché du travail a plus de mal à s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il s'adapte pas, mais ça veut dire qu'il lui faut effectivement un peu plus de temps.
Voilà pour ces cas particuliers. Il faut bien distinguer les gros chocs migratoires et l'immigration constante et diffuse qui, elle, n'a quasiment aucun impact sur les salaires. Mais alors, d'où vient la croyance inverse? D'où vient la croyance de ceux qui pensent que l'immigration tire les salaires à la baisse? Écoutez Jérôme Valette.
Je pense que ça vient vraiment de cette idée, de cette vision un peu malthusienne de l'économie, si vous voudrez, dans lequel il y aurait un gâteau d'emplois à se partager. Et donc, quand les immigrés arrivent directement, il y aurait une petite part pour chacun. Et cette vision-là, elle est peut-être vraie à très court terme, mais elle s'effondre à long terme parce que les marchés s'ajustent, il y a une stimulation de la demande. la main-d'œuvre augmente, le capital s'ajuste, etc. Et donc, on arrive très bien à voir qu'à long terme, en fait, le gâteau, la taille du gâteau n'est pas fixe et il peut avoir un gâteau plus gros à se partager.
Et d'où vient la croyance qu'on voyait tout à l'heure sur ce sondage IFOP ? 71% des Français pensent que l'immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas. Et bien pour Flore Gubert, certains scandales, certains comportements de patrons entretiennent cette idée, mais il ne faut pas mettre tous les patrons dans le même panier. Écoutez.
Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs immigrés, et en particulier les travailleurs immigrés sans papier, sont parfois, enfin dans certains secteurs, absolument scandaleuses. Il y a un exemple là très récent, il y a un article du Monde là-dessus il y a quelques jours, sur le fait que, sur la situation des travailleurs saisonniers employés en Champagne, hein, qui a débouché sur plusieurs enquêtes pour traite d'êtres humains. Donc évidemment, ça je pense que ça contribue à entretenir un peu cette idée de d'une migration qui exerce une pression à la baisse sur les salaires et qui dégrade les conditions d'emploi et de rémunération. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas nécessairement accabler tous les employeurs, parce que le problème auquel ils font face, hein, dans certains secteurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une insuffisance de voies légales pour pouvoir recruter des travailleurs immigrés qui leur permettraient de combler leurs besoins en main-d'œuvre.
Voilà pour l'analyse. Amandine, un mot de ce projet de loi immigration rejeté lundi donc à l'Assemblée nationale. À court terme, c'est quoi l'avenir de ce texte ?
Il y a trois options. Il va y avoir une commission mixte paritaire des députés et des sénateurs qui doivent trouver un accord, ça c'est lundi. Option 1, ils trouvent un accord et le lendemain, le texte est voté à l'Assemblée nationale, tout est bien qui finit bien. Option 2, la commission trouve un accord, mais le lendemain, mardi, le texte n'est pas voté à l'Assemblée nationale. C'est fini. Et option 3, la pire pour tout le monde, y compris pour les Français qui veulent ce texte. Lundi, la commission de députés et de sénateurs n'arrive pas à s'entendre. Et auquel cas, c'est fini dès lundi et le texte est entièrement rejeté et abandonné.
On va écouter Emmanuel Macron qui, hier, depuis Bruxelles, a mis un petit coup de pression sur sa première ministre.
Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français. C'est pourquoi j'ai demandé à la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, à l'ensemble des forces, eh bien, de finaliser dans les prochains jours un dialogue et d'essayer d'avoir une commission mixte paritaire qui permettra ensuite d'aller au vote. Et puis j'en tirerai les conséquences, je ne vais pas faire le travail du gouvernement et du Parlement ou faire de la politique fiction.
On a une question de téléspectatrice Ambre qui nous demande, Jordan Bardella peut-il être ministre ? D'abord, on va écouter le président du RN puisqu'il en a un petit peu parlé cette semaine. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe, c'était mardi sur BFM TV. Il évoquait son rôle en cas d'éventuelle dissolution.
Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr.
Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron ?
D'être un Premier ministre de cohabitation ? Bien sûr. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France.
Peut-il être ministre, Jordan Bardella, Amandine ?
Alors, tout ce qu'il dit est très exact, en théorie, mais Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas de dissolution. Donc, s'il n'y a pas de dissolution, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un Jordan Bardella ministre ou Premier ministre. En revanche, si Emmanuel Macron change d'avis et, à un moment donné, décide de dissoudre, si le Rassemblement national gagne les élections législatives, alors oui, il est dans la logique de la Constitution que Jordan Bardella, dans ce cas, puisse être un Premier ministre de cohabitation. Donc cette option aujourd'hui est doublement faible, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre et qu'il faudrait que le RN gagne les législatives, mais elle est parfaitement possible. Et on a bien vu ces derniers temps que la politique était assez surprenante, donc qui vivra verra.
Merci beaucoup, Amandine.